Une saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous. Il suffit d'une infime hésitation pour que soudain nous comprenions que l'acteur, cette drôle de créature qui nous fait face sur scène, est le passeur des mots d'un autre, le dépositaire d'une pièce qu'il a apprise et qu'il a apprise par cœur. Il suffit d'un léger trébuchement dans sa voix pour que soudain nous comprenions l'incroyable travail d'apprentissage auquel il s'est astreint. Et c'est paradoxalement presque plus par ses failles, ses défaillances, voire ses échecs que nous apparaît le talent d'un comédien. Nous ouvrons aujourd'hui le chapitre « Mémoire d'une saison au théâtre », encyclopédie en mouvement d'un art qui se souvient de tout. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que je m'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire.
Bonjour Christiane Coindy.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes comédienne et quelle comédienne, actuellement à l'affiche de Tableau d'une exécution, texte de Howard Barker, impeccablement mise en scène par Claudia Stavisky au Théâtre du Rond-Point. Et vous êtes avec nous aujourd'hui parce que, profitant de ce spectacle et des 70 autres dans lesquels vous avez joué tout au long de votre longue carrière, nous avons voulu parler avec vous de ce que c'est que la mémoire d'un acteur. Car qui dit mémoire des textes, bien sûr, dit aussi mémoire des spectacles, et vous n'en manquez pas dans votre besace. Et aussi mémoire du personnage, vaste sujet donc que la mémoire d'un acteur. Christiane Coindy, est-ce un grenier où tout est stocké, un disque dur que rien n'efface? Est-ce une prédisposition du cerveau, un travail acharné ou peut-être même une sorte de folie intérieure? On va essayer de répondre à toutes ces questions avec vous, mais avant cela, Christiane Coindy, je voudrais vous faire écouter une première archive. Voici le comédien Denis Podalydès.
La mémoire, c'est souvent... Les gens qui ne sont pas acteurs, d'ailleurs, toujours nous posent des questions là-dessus. Comment vous faites pour apprendre tant de textes?
Ben oui,
c'est la première question qu'on nous pose. Et nous, c'est la dernière qu'on se pose. Parce que ça va de soi. Le travail des répétitions fait que parfois on l'apprend le texte, mais même sans s'en rendre compte à la limite. Et puis, je me rends compte, avec les années, on se rend compte en voyant des camarades plus âgés, que la mémoire, en même temps, c'est extrêmement fragile. Et moi, je l'ai vérifié aussi sur moi, en ayant eu ce trou que je raconte dans le livre. C'est-à-dire, on se rend compte, on est dépendant de cette toute petite chose-là, immense et vraiment fragile, et je pourrais débrancher comme ça, disjoncter définitivement, et je serais... Et qu'est-ce que je ferais alors, si je n'étais plus capable? Quand j'ai des camarades qui ont des difficultés à apprendre des textes, où j'apprends qu'un acteur ne peut plus jouer parce qu'il ne peut plus apprendre, je trouve ça, mais... C'est une mort vivante pour moi absolument terrible. Et je sais qu'en vieillissant, cette angoisse-là s'accroît.
Alors, Christiane Coindy, est-ce que c'est vrai que cette angoisse-là s'accroît en vieillissant?
Je ne parlerai pas d'angoisse pour moi encore, disons, ou déjà. Mais en tout cas, le souci d'apprendre est... Peut-être que je parlerai d'une plus grande difficulté. Il faut une attention plus sérieuse, plus ardue pour être sûr du texte. Mmh. C'est vrai.
Ils sont très forts ces mots de Denis Podalydès. Il dit « je pourrais être débranché, voire disjoncté ». C'est ça le péril qui gâte l'acteur? Il serait débranché s'il perdait sa mémoire, disjoncté?
Là, il parle de la vieillesse, en somme.
Du trou de mémoire, je pense.
Parce que, en ce qui concerne, si vous voulez, la difficulté qui peut de mémoriser, qui peut s'accroître avec l'âge, ça, c'est une chose qui ne concerne pas seulement l'acteur. Tout un chacun peut être un petit peu fragilisé dans ses capacités psychiques, mentales, intellectuelles, avec le temps. Ou en tout cas, beaucoup de gens peuvent le craindre, puisque ça peut arriver. Mmh. Et donc, évidemment, pour un acteur, c'est une fin, c'est une catastrophe.
Une mort vivante.
Une mort vivante. Denis Podalydès. Voilà, c'est très bien exprimé. Mais pour la défaillance de ce qu'on appelle le trou de mémoire, hein, ou la défaillance de mémoire en scène, ça, c'est quelque chose qui arrive à tous âges, et voilà, qui donc je peux me souvenir que ça m'est arrivé voilà quand j'étais jeune. Mm-hmm. Voilà. Et ça, ce n'est pas forcément notre capacité de mémoriser qui est en jeu, c'est autre chose. On ne sait jamais d'ailleurs pourquoi ce trou de mémoire, pourquoi on est tombé dedans, pourquoi il nous a, quelque chose s'est arrêté. Ça n'est pas la capacité de se souvenir qui est altérée. C'est quelque chose dans le jeu, pendant le jeu, dans la vie du travail qui a interféré et dont qui est souvent une chose tout à fait inconsciente et évidemment qui vient perturber et qui nous, et dans la mesure où elle est irrépérable et inconsciente, alors oui, elle peut nous provoquer une angoisse que ça recommence. Mmh. parce que c'est toujours une situation très très scabreuse et très difficile à surmonter.
Est-ce que c'est vrai que vous apprenez, vous les acteurs, sans vous en rendre compte, comme le dit Denis Podalydès dans cette archive, Christiane Coindy?
Oui et non, tout dépend des conditions de travail, du temps de répétition. Si on a beaucoup de temps de répétition avec une sensation d'aucun stress et où les choses se cherchent directement au plateau, texte à la main, c'est ce qui se pratiquait beaucoup dans mes premières années. Nous démarrions avec une forme de fraîcheur, de virginité, de l'expression, disons, de la forme, d'une forme d'expression quelle qu'elle soit, directement sur le plateau où le corps cherche autant que la tête cherche le sens, les mots, et le texte vient s'installe sans qu'on ait la sensation, comme quand on est petit à l'école, d'apprendre quelque chose vraiment par cœur. Mmh. Après, quand on a, selon les rôles aussi, quand on a, disons, un monologue de 4 pages, ou un solo, comme il m'est arrivé d'en faire, par exemple, le texte de Serge Valetti, mmh. Et puis quand le jour s'est levé, je me suis endormie, c'était 2 heures de parole. Et ma foi, pour pouvoir créer quelque chose, et c'était une pièce où j'étais en solo, pour pouvoir créer quelque chose sur le plateau, on ne peut pas ne pas avoir à sa disposition déjà
le matériel textuel,
voilà. Et puis maintenant, je pense aussi, bon, les temps de répétition sont toujours un tout petit peu plus serrés. L'économie atteint évidemment nos métiers comme d'autres secteurs de la vie, du travail de tous. Et pour pouvoir être libre d'inventer, de chercher sur le plateau dans toutes sortes de sens, j'ai découvert que c'était très bien d'avoir en quelque sorte mémorisé le texte à l'avance, même si ça n'est pas si agréable que ça, parce que on fait toujours l'effort de le mémoriser sans. On fait un énorme travail d'élucidation, de compréhension, d'appréhension, d'imprégnation d'un ouvrage littéraire, d'un texte, de sa résonance, de sa sensibilité, et en même temps, donc, et ça reste ouvert, c'est quelque chose qui va à l'intérieur de nous, qui va à la recherche de notre propre trésor aussi, d'émotions, de souvenirs, de pensées, de capacité de faire des liens. Donc ça, c'est une chose très très ouverte, et en même temps mémoriser tout à fait le texte sans lui donner une dans notre tête déjà une intonation, une forme, un sens préfabriqué, préétabli, c'est difficile.
France Culture,
une saison au théâtre,
Joël Gaillot.
Je vous propose, Christiane Coindy, de passer par les propos d'un neurologue spécialiste de la mémoire. Il s'appelle Francis Eustache et il détaillait en 2009 au micro de France Inter les différents visages de la mémoire qui, vous allez le voir, sont assez complexes.
Notre mémoire est constituée de 5 grands systèmes de mémoire que je peux définir très rapidement, de la plus simple à la plus complexe. Alors la plus simple, c'est la mémoire procédurale, c'est la mémoire en quelque sorte des habiletés, des habitudes acquises au fil du temps, par exemple faire du vélo ou faire du ski, des choses de ce type. Ensuite, les mémoires perceptives, le fait que l'on soit en contact perceptif avec un objet, quel qu'il soit, fait qu'on identifie mieux cet objet par la suite. Alors ça a l'air très simple, très rudimentaire, mais en fait c'est très très important dans la vie de tous les jours pour identifier des personnes, pour identifier des lieux, etc. Ensuite il y a la mémoire de travail, qui est en quelque sorte la mémoire à court terme, qui nous permet de gérer notre présent psychologique, hein, notre temps présent. Et puis ensuite on arrive dans des systèmes de mémoire beaucoup plus élaborés. L'un est la mémoire sémantique. C'est la mémoire des connaissances sur le monde, des connaissances générales. Nous savons que Paris, c'est la capitale de la France, que Rome, c'est la capitale de l'Italie. C'est aussi des connaissances générales sur soi-même. Et puis enfin, il y a la mémoire la plus élaborée, qui serait peut-être spécifiquement humaine, que l'on appelle la mémoire épisodique. Cette mémoire épisodique, c'est en fait la mémoire des souvenirs, qui est à la fois tourné vers le passé, mais qui est en même temps une projection vers l'avenir, vers le futur.
Voilà, fascinant phénomène, hein, que cette mémoire qui s'articule en plusieurs espaces, plusieurs procédés, plusieurs systèmes. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, Christiane Coindy, sur le plateau du théâtre, quand vous êtes en action, que plusieurs mémoires en vous se conjuguent pour vous permettre d'accéder au jeu et d'être dans le jeu ? Prenons par exemple le spectacle que vous jouez actuellement au Théâtre du Rond-Point, où vous interprétez le rôle d'une peintre qui est une femme de tête, qui est une femme d'une très grande personnalité, qui a beaucoup de caractère. Et spectacle pour lequel vous avez dû vous plonger dans la peau d'une artiste peintre, ce que vous n'êtes pas. De quelle manière faites-vous travailler en vous différentes strates de mémoire ?
Je voudrais dire juste par rapport à ce que nous évoquions tout à l'heure.
Oui.
Nous parlions de l'apprentissage du texte. Et évidemment...
La mémorisation, ce qui n'est
voilà,
pas la même
mémorisation.
Chose.
Donc évidemment, ce qui se passe sur le plateau et ce qu'on peut constater effectivement comme mémoire, ah ben oui, l'acteur, il a la... Ouh là là, il a dit tout ça, il a de la mémoire. Mais ce qui se passe, la mémoire qui est à l'œuvre, disons, sur un plateau, est une élaboration extrêmement complexe, faite d'éléments qui procèdent évidemment, des répétitions, mais d'éléments extrêmement variés, riches, divers. C'est-à-dire que nous avons tendance à exprimer au moins une chose simple, c'est ce qu'on appelle la mémoire du corps. Et le monsieur tout à l'heure, peut-être qu'elle se rapporterait quand il dit apprendre à faire du vélo, voilà, c'est-à-dire que le corps il a appris et il a mémorisé à tel point que il exécute sans avoir la sensation d'être en train de se remémorer. Ça se fait, voilà. Il s'agit un peu de capitaliser toute une somme de choses et qui n'est pas seulement... Alors, je dis la mémoire du corps, mais le corps, il est complexe. C'est le sol du théâtre, c'est l'espace dans lequel on est, c'est la direction dans laquelle on regarde, c'est le regard du partenaire, c'est le tissu dans lequel on est enveloppé. Tout ça nous colle à la peau et fait partie de notre capacité de mémoriser même telle ou telle phrase ou tel ou tel mot. La poétique générale d'un texte entre en correspondance avec tout ce qui est concret et aussi, évidemment, avec la façon dont nous-mêmes, en dialogue avec les partenaires, avec le metteur en scène, élaborons le sens de chaque instant, de chaque moment, de chaque, on pourrait dire, de chaque phrase, qui vient aussi puiser dans notre propre mémoire de notre propre vie, ce qui nous reste. Une mémoire comme je sais pas, un arc-en-ciel d'émotions, comment le définir, enfin, cet infini d'expériences, d'émotions qui peut avoir encore la grâce d'être ici, d'être accessible. Et parfois, c'est le texte, c'est un mot du texte, c'est une phrase qui vient chercher ce qui était en nous et qu'on n'avait pas forcément, ou qu'on croyait oublier, mais qui active et fait vivre la parole du présent.
Mais est-ce que la mémorisation, donc, opérée par l'acteur, qu'il la fasse avant d'entrer sur le plateau, qu'il la fasse en travaillant en répétition, ne vise pas finalement simplement à créer quelque chose qui est supplémentaire, qui est à la fois différent et identique, qui est préparer la mémoire du personnage? Est-ce que la mémoire du personnage, ce n'est pas vers ça que vous tendez, Christiane Coindy?
Ah, c'est très intéressant vision, comme formulation.
Cette Alixia, qui est l'héroïne de tableau d'une exécution, a-t-elle, à un moment donné, eu sa propre mémoire? L'avez-vous équipée, dotée de sa propre mémoire, Christiane Coindy?
Pas de façon anecdotique, mais de façon... J'ai la sensation, évidemment, que puisque mon corps et ma psyché est modifié par l'imaginaire de telle situation, de tel acte, de telle pensée, que, évidemment, d'une certaine manière, c'est son passé qui parle au présent. Parce que l'intérêt, disons, c'est que ce capital humain qu'elle peut représenter est entendu et révélé par la façon dont, à l'instant même, d'une façon qui est comme en train de naître, de lui arriver, de faire ça ou de dire ça. Et évidemment, on peut imaginer que très agréablement d'ailleurs, que c'est sa mémoire qui parle. Comme là, tout de suite, devant vous, je me dis que qu'est-ce qui parle?
Et voilà.
Qu'est-ce qui parle?
Voilà, l'exercice est très compliqué pour le comédien de venir parler de son art au moment où il le pratique. Et c'est sans doute une des clés qui fait qu'il a tellement de mal à se différencier de ce personnage qu'il habite, au fond, et qui a pris possession de lui.
Oui, en même temps, l'exécution... puisque la pièce que vous évoquiez, dans laquelle je joue en ce moment, s'appelle « Tableau d'une exécution ».
Au rond-point,
c'est
donc
évidemment l'exécution d'un tableau et le risque d'une exécution capitale pour l'artiste. Mais c'est l'exécution de la pièce nous rappelle sans cesse aussi un présent moins rêvé, moins fictionnel, nous protège d'une certaine manière de la folie et nous rappelle à la conscience que nous sommes dans une forme, dans une construction. C'est-à-dire, il y a un tableau et puis un autre tableau et il faut vraiment sortir d'un temps pour entrer dans un autre temps. Voilà, disons que la conscience que nous sommes en train de construire à vif devant les spectateurs, avec les spectateurs, un instant de sens, un instant de situation, de réalité, une fiction à laquelle tout le monde croit, nous, et en l'espérant eux aussi, ça, cette conscience de la construction nous préserve d'un dérapage total et de la folie.
Je voudrais vous faire écouter une dernière archive. Il s'agit de Michel Bouquet, grand comédien parmi les grands comédiens, qui racontait au micro de José Arthur dans le fameux Pop Club un moment tragique qu'il a vécu lorsqu'il jouait Pozzo en attendant Godot de Beckett à Avignon dans la cour d'honneur trou de 3 minutes 30, dit-il.
Le trou que j'ai eu de 3 minutes et demie où j'ai dû sortir de scène.
Et 3 minutes et demie pour un comédien, c'est une demi-heure.
Oui, c'est l'humiliation atroce et c'est la fin du monde, quoi.
C'est la fin du monde.
Et alors, on me repousse après en scène et puis toutes les répliques qui venaient petit à petit me coûtait un effort. C'est comme si j'avais nagé, je veux dire, dans une mer démontée et sans savoir du tout, en pouvant me noyer à chaque seconde et faisant tous les efforts du monde pour que les répliques reviennent les unes à leur place et les autres à leur place, etc. Ça a été un enfer. Et les trois représentations qui me restaient à faire de Godot dans la Cour d'honneur ont été des
supplices.
Des supplices affreux.
Voilà, je suis très frappée en entendant ce que raconte Michel Bouquet, Christiane Cohen dit, de la souffrance que ça a représenté, cette rupture, au fond, rupture de contrat. Il a eu un trou de 3 minutes 30, c'est vrai que c'est long. Et après, il parle quand même de supplice. Il dit qu'il a fallu les trois dernières représentations. Il a ramé, si je continue la métaphore de la mer démontée. Et ça me fait penser à un livre que je viens de lire qui s'appelle Par cœur. Il est signé Gilles Kneuzet. Gilles Kneuzet raconte dedans l'histoire d'un comédien qui a des trous de mémoire, qui est vieillissant, à qui on propose une oreillette qu'il apprendra pas, mais c'est Gilles Kneuzet qui va lui servir de souffleur sur le plateau théâtre. Ce comédien, vous le connaissez, il a joué avec le metteur en scène André Ringel, que vous connaissez bien, et dans une grande pièce qui s'appelait Le Roi Lia. Oui. Et on voit la souffrance que c'est, cette rupture de contrat, je ne sais pas trop comment l'appeler autrement, et que derrière, il faut remonter une pente, il faut remonter en selle, et ça n'est pas si simple. Alors, vous êtes préservé du trou de mémoire, même si, comme d'autres, vous avez eu parfois des accidents.
Oui, j'en ai eu.
Est-ce que c'est une blessure ? Est-ce que c'est une vraie blessure ? Et pour l'amour propre, peut-être, pour commencer, et ensuite pour ce qu'on pense de soi en tant qu'acteur, Christiane Cohen dit.
C'est quelque chose qui nous dépasse tellement. Moi, je l'ai plutôt vécu comme un drame qui m'arrive, plutôt que comme une faute dont j'avais l'horrible responsabilité. C'est ça. Voilà. Alors que, par contre, oui, sur le plateau, le vertige, la douleur, le monde, un monde s'écroule véritablement. Ça, c'est quelque chose. En tout cas, une des grandes émotions qu'on peut éprouver sur un plateau de théâtre, qui sont toujours un peu intensifiées, enfin, qui sont plus denses, plus aiguës, plus fulgurantes que celles que nous éprouvons dans la vie, qui sont tenues, je me souviens d'un trou de mémoire il y a très longtemps. Je travaillais avec Jean-Pierre Vincent au Théâtre National de Strasbourg. Il avait monté Le Misanthrope, je jouais Célimène. Et cette très belle mise en scène avait eu le bonheur d'être invitée dans ce qu'on appelait à l'époque les pays de l'Est, de l'autre côté. C'était en 1979. Et je me souviens en Pologne, au Grand Théâtre de Varsovie, où nous étions invités de façon très très officielle. J'étais seule, enfin pas seule, disons que j'étais face publique au milieu du plateau, et je m'adressais à Philippe Clévenot, Alceste.
Cet immense comédien qui était Philippe Clévenot.
Magnifique, voilà. Et Dieu sait que j'avais joué et joué et joué. Nous n'étions pas au début des représentations, loin de là. Et au milieu d'une phrase, et là il s'agit nous sommes chez Molière et c'est en alexandrin. Eh bien, au milieu, tout s'est arrêté. Tout. Et le silence, enfin là, puisque le public était particulièrement silencieux, enfin attentif, on entendait, puisqu'ils écoutaient une pièce dans une langue étrangère, langue que pour la plupart, d'ailleurs, ils fréquentaient, mais dans cet immense théâtre, le jour de la première, enfin, la France est représentée, enfin, c'était politique, la responsabilité de la fin de la phrase de cette Célimène était lourde. J'étais là, j'étais vraiment visage ouvert, et je cherchais, rien ne venait. Et ni le vers d'avant, ni le vers d'après. Et tout d'un coup, alors parfois, souvent, ce qui me sauve, c'est de penser que il faut que je les aide. Je me disais, je ne peux pas les laisser comme ça dans le non-sens.
Qui ça ?
Les spectateurs.
Les spectateurs.
Et oui, je ne peux pas les abandonner. Voilà. Et en pensant ça, je me disais, mais qu'est-ce que je lui disais? Qu'est-ce que je lui disais? Et donc le sens de ce que j'adressais, de ce moment que j'adressais à Alceste, m'était clair. Les mots de Molière n'étaient pas là, mais au moins, je me suis dit, au moins, je vais donner le sens. Oui. Et donc j'ai inventé, enfin j'ai dit les choses avec des mots, on dirait d'aujourd'hui, en tout cas sans la prosodie classique et la rime. Et ce faisant, revenant au sens, la suite était là.
Voilà. Et l'oubli, oui. Christiane Coindy, est-ce que c'est nécessaire pour un acteur, l'oubli, oublier? Oublier Molière, oublier Tchekhov, oublier Jean-Luc Lagarce, oublier tous ces mots que vous avez appris tout au long de votre carrière.
Oui, il faut...
Et enfin, ça demande un effort, l'oubli aussi C'est tout à fait naturel.
Pour moi, c'est assez naturel. C'est assez naturel, simplement pour... c'est pour accueillir le...
Faire place nette.
Oui, enfin, on n'efface pas, on sait que c'est là. Mais lorsque nous apprêtons à rencontrer Howard Barker ou un autre auteur, enfin, je suis présente à eux complètement. Et ce qui ne veut pas dire que dans la vie, à plein de moments et voilà, c'est-à-dire que des éléments, soit des spectacles, des partenaires, des œuvres lues, des œuvres qu'on lit en dehors du théâtre, des romans, des poésies, des auteurs qu'on affectionne, j'ai lu beaucoup de réflexions de peintres quand j'ai préparé cette Galaxia. Tout ça me parle, ça revient, les choses sont là. Mais disons le fait de savoir le texte par cœur, si je devais rejouer, mettons, Lioubov dans La Cerisée que j'avais interprété avec Mathias Langhoff, ben, il faudrait que je réapprenne. Mais
il n'est pas si loin que ça.
Mais voilà, mais disons que je la connais.
Ne m'oublie pas sur la porte au milieu de tes clés. Ne m'oublie pas sous la flotte d'un parapluie mouillé. Ne m'oublie pas au fond d'un tiroir rouillé ou dans un vieux cahier. Ne m'oublie pas sur ta bouche à en perdre tes mots. Ne m'oublie pas quand tu touches une autre avec ta peau. Ne m'oublie pas ailleurs, les idées traînent dans la semaine.
Merci mille fois, Christiane Coindy. Je rappelle que vous êtes actuellement au théâtre du Rond-Point dans Tableau d'une exécution de Howard Barker, mise en scène de Claudia Stavisky. C'est jusqu'au 28 janvier. Et amis auditeurs, ne ratez pas ce spectacle et surtout ne ratez pas Christiane Coindy sur la scène du Rond-Point. Elle est entourée d'une pléiade de comédiens exceptionnels. C'est absolument formidable. Vous pouvez et même vous devriez podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture.
Ne m'oublie pas à l'époque où je n'existe plus. Ne m'oublie pas dans tes poches, petits boutons perdus.
Inès Duperron, Vanessa Nadjar, Vincent Abouchard, Pierrick Monsigny, Joël Gaillot vous saluent bientôt 16h sur France Culture. C'est pour vous tous le moment de retrouver Aurélie Luneau et son magazine de cause à effet.
Sous la plume légère de l'oreiller. Ne m'oublie pas sous l'écume dans le mar de café. Ne m'oublie pas toi, si ça s'y prête.